ça. Paraît qu'il y a un état entouré de barbelés qui depuis des années se bat pour pu être occupé. Le voisin d'à côté qui colonise ses terres pense que pour faire la paix rien ne vaut les militaires. 70 ans de guerre, tu crois que ça fait tout ça? Ce serait pire que l'enfer du côté de Gaza. J'trouve pas les mots, c'est un peu gros, non. Ça se peut pas, un truc comme ça. J'trouve pas les mots, tellement c'est gros, mais on m'a dit ça, un truc comme ça. Il paraît qu'ils font fort, les fils à leur papa.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un réalisateur israélien que nous apprécions beaucoup. Il s'agit d'Elia Sivan. Elia Sivan était présent au dernier festival Histoire de se rencontrer au Mas d'Asile organisé par Maïlis Boufarti, que dont nous avons parlé dans l'émission. Ce festival était organisé en mars 2024. Alors dans ce festival, Elia Sivan a présenté deux documentaires. Jaffa, la mécanique de l'orange, et Itgaber, le triomphe sur soi. Elia Sivan est présenté ainsi dans le programme du festival. Quiconque se pose des questions fondamentales sur sa conscience, sur l'État, sur le droit, sur la responsabilité, sur l'art, le cinéma, le documentaire d'art et d'essai, ne peut qu'être comblé par les films incontournables d'Elia Sivan. Producteur, réalisateur, essayiste israélien vivant à Paris, il est aussi l'auteur d'un boycott légitime, universitaire et culturel d'Israël. Sa parole lucide sur Israël-Palestine est trop rare dans les médias. Alors, puisque sa parole est rare, nous allons lui donner la parole encore aujourd'hui dans notre émission, car je me souviens de l'un de ses documentaires les plus importants. Il s'agit du documentaire intitulé « Route 181, fragment d'un voyage en Israël-Palestine, co-réalisé avec le réalisateur palestinien Michel Kleifi en 2004. Alors j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première de ce film à Paris. La salle de cinéma était pleine à craquer pour assister à la projection du film et aussi pour écouter Eliane Siva. Michel Kleifi, palestinien, n'avait pas eu de visa pour venir à Paris. Le débat après le film a été très intéressant, même si quelques Israéliens d'extrême droite ont tenté à plusieurs reprises de perturber la réunion. On sentait déjà alors que le film Route 181 dérangeait le pouvoir israélien et les juifs extrémistes de Paris. Pour commencer notre émission, nous allons donc entendre la bande-annonce du film Route 181 pour connaître le contenu de ce documentaire.
Été 2002. Le cinéaste palestinien Michel Kleifi et le cinéaste israélien Eyal Sivan partent pour un voyage cinématographique commun dans leur pays, Palestine-Israël. Pour accomplir ce voyage sur leur terre natale, ils ont tracé un parcours sur une carte routière. Ils l'ont intitulé la route 181, d'après la résolution 181 adoptée par les Nations Unies en 1947. Cette résolution prévoyait la partition de la Palestine en deux États, 56% du territoire pour la minorité juive et 43% pour la majorité arabe, avec, au centre, une zone internationale. Ce tracé théorique qui se présentait comme une solution a entraîné la première guerre israélo-arabe dont on ne voit aujourd'hui encore toujours pas la fin. Leur voyage sur la route 181 suit le tracé de cette frontière qui n'a jamais existé.
Pour tourner le film Route 181, Elia Sivan et Michel Kleifi ont interrogé tout au long de leur parcours, tantôt du côté israélien de la route, tantôt du côté palestinien, des personnes ordinaires qui racontent leur vie avec beaucoup de sincérité et parfois aussi avec douleur. Volontairement, ils n'ont interrogé aucun universitaire, aucun politique, aucun expert. Ils ont voulu raconter l'histoire de ces peuples avec le plus de clarté possible et le résultat est exceptionnel car il est plus porteur de paix que de discorde. En 2020, les deux réalisateurs répondaient à des questions de spectateurs dans un ciné-club en évoquant d'abord les mémoires qui nourrissent tous ces récits.
Je me demandais, justement, pour remédier en fait à ce problème qui est le ressassement, on va dire, d'une mémoire qui n'a pas forcément de but positif, l'impulsion viendrait de où pour parvenir à changer ça.
C'est une question difficile pour un cinéaste.
Mais d'après vous,
Si vous voulez, d'abord cette question de mémoire, d'une certaine manière, elle est problématique. Je parle sous le contrôle d'un grand cinéaste de la mémoire. Je pense qu'il y a mémoire et mémoire. La mémoire n'est pas opposée à l'oubli. Déjà, c'est-à-dire, dans la langue, on considère qu'il y a d'un côté mémoire et de l'autre côté, en face, il y a l'oubli. Moi, je pense que la mémoire, c'est plus un petit peu comme les cadres au cinéma. C'est-à-dire, il y a le visible, il y a l'invisible. C'est pas tellement. Il y a celui-là qui est mis en avant et celui-là qui est nié. Là où il y a mémoire, il y a oubli. Déjà. C'est-à-dire, la mémoire n'est pas l'opposé de l'oubli, mais la mémoire est justement cette interaction entre préserver et effacer, préserver et effacer. Donc la question, qu'est-ce qui est préservé, qu'est-ce qui est effacé? Je vais vous donner un exemple concret. C'est-à-dire, ce qu'on a vu là, c'est en réalité une éducation qui se fonde sur un segment de l'expérience, si vous voulez, juive en Europe, qui n'est qu'un segment de l'histoire de ces groupes qui sont les juifs. Si on aurait pris une mémoire autre, d'une certaine manière. On aurait inversé, pas l'invisible, mais on aurait mis le visible. Par exemple, une histoire qui est l'histoire des juifs en terre d'islam. Eh bien, à partir de ce moment-là, tout change. Il n'y a pas la Shoah en terre d'islam. Les plus grands écrits de judaïsme rabbinique ont été faits en terre d'islam. Si c'est les Talmud lui-même, à la table, les dressés, etc., et écrits en arabe. C'est-à-dire qu'il y a une expérience aussi arabe et juif arabe en terre d'islam qui peut nous raconter quelque chose qui est une expérience complètement différente et donc un avenir différent. Là, ce qu'on voit, c'est une instrumentalisation de la mémoire, c'est une utilisation de la mémoire comme un facteur politique. Et ça, c'est pas seulement Israël. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est généralisé, et c'est au cœur de nationalisme, et c'est au cœur de colonialisme, de peuplement, qu'Israël en fait partie, de ces 5 pays, ou 6 pays aujourd'hui dans le monde, qu'on peut les caractériser par les colonialismes de peuplement, et les colonialismes de peuplement, une partie, c'est donner une nouvelle mémoire, qui sera une mémoire collective et qui efface la mémoire individuelle. On le voit aux États-Unis, on va le voir en Australie, on va le voir en Argentine et dans l'autre pays qui sont le colonialisme de peuplement. Vous me posez la question donc, mais comment on peut inverser ?
Il n'y a pas d'intérêt en fait à l'inverser. Bah,
d'abord, il n'y a pas l'intérêt d'État. Deuxièmement, on parle d'un ton qui est un autre ton que le ton de l'action politique elle-même, qui est le ton de la culture et le ton de l'éducation, qui sont des tons beaucoup plus longs. Beaucoup plus long que les temps de la réaction. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a deux choses. D'un côté, c'est une certaine défense, justement, de la perversion que l'État d'Israël a fait du judaïsme, c'est-à-dire une certaine défense d'un judaïsme, moi je parle d'un judaïsme certain, qui est en réalité une présence hétérogène, internationaliste, non territoriale, ça c'est une chose. Et deuxièmement, je pense qu'en effet, face à une telle violence faite sur la population en fond, d'une certaine manière, il faut une contre violence, si vous voulez, ou un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, les seuls que moi je vois, et celui-là que je défends, c'est en réalité la pression réelle sur la population israélienne, sur la seule forme politique que je la vois pratique aujourd'hui, qui est le boycott des investissements et sanctions. C'est-à-dire faire peser sur la société israélienne les prix de ses choix.
Donc vous êtes pour le boycott de... Je simplifie.
Je ne suis pas pour, je suis un ardent défendeur. L'idée que la souffrance de passé est un vaccin pour ne pas commettre de crimes dans l'avenir est un leurre. Ça n'existe pas. Au contraire, presque. La souffrance de passé, malheureusement, quand ça devient étatisé, ça devient une permission d'action. Et c'est ça un petit peu l'idée derrière Iskor. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité des Israéliens de se voir comme des bourreaux, puisque, quoi qu'il en soit, il s'agit de victimes qui agissent. Donc, sortir de la logique victimaire, c'est déjà se réhumaniser. D'abord, on le voit à l'écran, on le voit quand ils regardent la télé, on voit les parents, ils sont assis là, il y a même la mère qui dit à l'enfant, il dit « Oh chic, tu regardes, est-ce que tu regardes bien la télévision ?» Donc on voit les parents, et on sait d'où il vient, il y a la fille qui dit à un moment « Mes parents sont marocains, primitives », elle dit entre parenthèses, primitive, elle le dit à moi, les juifs blancs ashkénazes, c'est-à-dire elle me dit « C'est ça que tu es en train de penser », c'est pour ça qu'elle me dit « primitive », et ça montre aussi cette relation interethnique qui existe en Israël entre les juifs arabes, ou les juifs orientaux, si vous voulez, issus des pays arabes, et les juifs ashkénazes, qui représentent aujourd'hui une minorité en Israël, mais qui représentent la majorité des détentions du pouvoir, si c'est les pouvoirs économiques, les pouvoirs juridiques, les pouvoirs académiques et culturels. Je le dis parce que j'ai choisi exprès, j'ai cherché une famille qui ne serait pas une famille ashkénaze, qui ne serait pas une famille qui a un lien direct, imaginaire ou direct, territorial, avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec les judéocides. Exprès, j'ai cherché une famille dans laquelle cette mémoire est une mémoire acquise, est une mémoire qui est reçue par les systèmes et qui est, par conséquence, aussi un démon d'effacement d'une autre mémoire qui apparaît d'une certaine manière lors de la fête de la Mimouna, qui est une fête extrêmement quand on est chez les juifs marocains, parfois il y a quelques Algériens, Tunisiens qui fêtent aussi la fête de la Mimouna, qui est la fête de lendemain de Pâques, et qui était très intéressant quand c'était en Afrique du Nord, donc avant les années 48, quand l'État d'Israël s'est constitué, parce que c'était une fête dans laquelle les musulmans apportaient aux familles juives le premier pain au moment qu'ils pouvaient commencer à manger des pains après la semaine d'interdiction des pains. Et en Israël, et les fêter, mais les fêter à l'intérieur, et les fêter d'une façon comme une mémoire marane, d'une certaine manière, comme quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas revendiqué. Ça a changé depuis. Il y a la Renaissance orientale. Mais là, on a exactement cette existence arabe qui doit être cachée. Dans la maison, on peut être arabe, on le voit dans la fête de la Mimouna, dans la chanson, dans la façon d'être habillé, mais quand on sort dans la rue, on doit détester l'arabe. Et ça, c'est d'une certaine manière la schizophrénie terrible de la majorité de la société juive israélienne aujourd'hui, qui sont les juifs orientaux, comme dit un ami qui est un grand penseur de la mouvance juif orientale, qui est Saint-Michel Omchitrit. Il dit, on se lève le matin, on voit un arabe dans la glace, on s'assoit pour manger le petit déjeuner, on mange de la bouffe arabe, et on doit sortir de la maison, on doit détester l'arabe.
مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة بل لكي أشهد المجزرة لكي أشهد المجزرة نجوت
وخفت خفت كثيرا على إخوتي وأبي وخفت على زمن من زجاج وخفت على قطتي وعلى أرنبي وعلى قمر ساهر فوق مئذنة المسجد العالية وخفت على عنب الدالية يتدلى كأثداء كلبتنا ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكريات الصغيرة عما أريد من الغد لا وقت للغد لا وقت للغد أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أسرق أنشق أجهش أعطش أتعب أسغب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلوس أهمز أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويغمى علي
Je cours,
je monte,
je descends,
je crie,
j'aboie,
je clapille,
j'appelle,
je ulule,
j'accélère,
je ralentis,
je bascule,
je m'allège,
je me dessèche,
j'avance,
je vole,
je vois,
je ne vois pas,
je trébuche,
je jaunis,
je verdis,
je blêmis,
je me fends,
je larmoie,
j'ai soif,
je fatigue,
j'ai faim,
je tombe,
je me relève,
je cours,
j'oublie,
je vois.
Je ne vois pas.
Je me souviens.
J'entends.
Je recouvre la vue.
Je délire.
J'hallucine.
Je chuchote.
Je crie.
Je ne peux.
Je gémis.
Je m'affole.
Je m'égare.
Je diminue.
Je me multiplie.
Je tombe.
Je m'envole.
J'atterris.
Je saigne.
Je m'évanouis.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un chant du poète palestinien Mahmoud Darwish, interprété à la Philharmonie de Paris en 2020. Et c'est aussi en 2020 que les deux cinéastes Eliane Sivan, israélien, et Michel Kaifi, palestinien, auteur du film Route 181, répondaient à des questions de spectateurs. Et vous allez l'entendre, leurs réponses sont toujours d'actualité.
Le film que vous avez réalisé ensemble, Route 181, a eu beaucoup de problèmes aussi, a suscité beaucoup de controverses, a été déprogrammé à certains moments. Est-ce que, si on se place à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, en tant que cinéaste, en tant que créateur ou en tant qu'intervenant dans le débat public, que ce débat s'est rétréci sur la question d'Israël, sur la question du sionisme, la critique du sionisme? Est-ce que, finalement, le débat s'est simplement reconfiguré autrement ou est-ce qu'il s'est véritablement rétréci? Puisqu'on voit notamment avec tous ces débats sur BDS égale antisémitisme, antisionisme égale antisémitisme, est-ce qu'il y a vraiment eu un rétrécissement du débat ou bien c'est simplement le débat qui s'est reconfiguré?
Moi, je laisserai là-dessus la parole à Michel qui a connu la période dans laquelle même montrer un drapeau palestinien, dire être palestinien était un problème. On en a parlé tout à l'heure justement de cette régression. Je pense que la grande différence depuis 2000, c'est-à-dire maintenant presque 20 ans, plus la politique israélienne est indéfendable et elle est en contradiction totale, même avec la vitrine supposée qui veut montrer l'État d'Israël, le seul argument qui reste, c'est la délégitimation de ceux qui sont en face, c'est-à-dire de nous. Et c'est ça qui est devenu, c'est-à-dire, il n'y a plus de débat. Il y a qui est permis dans le débat et qui est exclu de débat. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de quelqu'un qui est antisémite, dire de Godard qu'il est antisémite. C'est-à-dire, vous n'êtes pas légitime dans le débat. Et ça montre, non pas leur force, mais leur faiblesse. Parce que quand on est fort, on accepte de débattre. Quand on est faible, on écarte l'adversaire. Et dans les dernières 20 ans, ce qu'on a vu, en tous les cas de ma position, mais Michel peut-être a une autre, c'est que moi je vois deux choses qui se sont installées. D'abord, une pression très forte de l'État d'Israël, mais aussi une convergence entre l'État d'Israël et les ex-démocraties libérales. Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties non libérales, comme disait Orban, le président hongrois. Je pense qu'il a défini très bien la situation européenne de démocratie non libérale. Et donc, il y a une rencontre entre la pensée sioniste et la pensée, je dirais, vous m'excusez, blanche européenne. C'est-à-dire cette suprématie blanche européenne qui est différente des États-Unis. Et c'est là qu'on commence à voir depuis 20 ans, et Route 181 est un de symptômes, c'est il ne faut pas laisser la place à ces gens, donc ça c'est leur position, à ces gens de s'exprimer. Et donc c'est un travail de dénigrement, de sape, de terreur intellectuelle permanente sur qui a les droits de s'exprimer, ça adossé à la lâcheté de personnes aujourd'hui responsables dans les chaînes, dans les médias, etc. Bah, ça donne ce qu'on est en train de voir sur les chaînes de télévision. Donc, en effet, aujourd'hui, un film comme Yisgor serait même pas produit. Il faut se rappeler, c'est un film coproduit par France 3, coproduit par la ZDF en Allemagne à l'époque. Aujourd'hui, ça serait pas possible. Et non pas parce que les gens dans les chaînes pensent, mais parce qu'ils ne pensent pas.
C'est-à-dire, si tu veux, on est en guerre. Et la guerre est dure, elle est très difficile. Il y a une guerre réelle, il y a une guerre économique, il y a une guerre financière, il y a une guerre idéologique et culturelle, etc. Ils sont forts parce que les profondeurs stratégiques sur lesquelles s'appuie Israël est très très fort. Ça va de l'Europe jusqu'à les États-Unis et même maintenant on s'en rend compte dans le monde arabe. Donc pour nous, on le savait, mais maintenant ça devient, disons, en plein jour. Donc pour quelqu'un comme moi, par rapport à mon histoire, grandir, disons, à l'ombre de la victime absolue, et devenir sa victime en plus. Vous imaginez quel bonheur. Donc, C'est-à-dire, pour moi, il faut deux choses. D'abord, ne pas oublier qu'il faut humaniser l'autre et soi à la fois. C'est-à-dire, malgré tout, au-delà des régimes et des systèmes, etc., des abstraits de la guerre horrible, parce que finalement, les enjeux, c'est des milliards de dollars par jour autour de pétrole de Proche-Orient. Et que le cynisme, c'est qu'on détruit tout et on essaye de dire, voilà, un récit presque archaïque, voilà, Erdogan qui entre dans le nord de la Syrie, les Kurdes, ils s'en vont, ils sont obligés de faire la paix avec l'horrible Assad, etc., etc. Enfin bon, c'est des histoires vraiment pas plus. Parce que la réalité, on ne le dit pas, c'est-à-dire qu'on détruit tous ces pays pour les intérêts de l'impérialisme de toutes sortes. Y compris, alors, ce qui personnellement me touche terriblement, c'est que depuis une vingtaine d'années, on voit tous que l'évolution de nos pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a une oligarchie qui est en train de s'installer un peu partout, qui est mafiosée. C'est des mafias. C'est vraiment des mafias entre eux. Et nous, qu'est-ce qu'on a ? On a rien du tout. On a le cinéma. Et en plus, on est tellement marginaux dans le cinéma. Mais nous représentons l'éthique. Une sorte de morale. Parce que normalement, si vous voulez, en termes rationnels, Israël devait nous écraser depuis longtemps. Nous effacer. Et bien, il n'arrive pas parce que un des éléments de la victoire, c'est une victoire morale. Et il n'arrive pas. Et je crois que c'est ça notre travail. Hein. Nous, notre travail, c'est de rappeler que malgré tout, on est unis, Israéliens, Palestiniens, Arabes, Européens, tout ce que vous voulez, etc., dans notre humanité. On ne peut pas dépasser notre humanité. Et c'est là où, de nouveau, moi je pense, en tant que devoir humain, il faut boycotter Israël. C'est éthique. Ce qui n'est pas éthique, c'est de ne pas boycotter Israël. Hein? Et ce n'est pas contre, quand on dit ça, ce n'est pas contre les citoyens israéliens, c'est contre le système. C'est un système terriblement, mais vraiment pervers. Écoutez, aujourd'hui, par le hasard des choses, j'ai lu à propos de MeToo et le rapport avec Weinstein. Le père de Weinstein était un agent de Mossad dans les années 50. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la plupart des avocats, des machins, etc., autour de Weinstein, sont des détectives privés, etc., sont des Israéliens. Vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'Israël, c'est une société humaine. Je mets bien dans le temps, et quand on défendait la Route 181, Eyal disait, Israël essaie d'être hors de l'humanité, il est dans l'humanité. Hors de l'histoire, il est dans l'histoire. C'est des humains comme nous qui sont dans la merde, hein, même si une merde plus riche, parce qu'il y a beaucoup de dollars qui tombent dans cette merde. Hein, vous voyez ? Et alors, bon, voilà. Mais il faut en sortir. Il faut en sortir avec des positions morales et culturelles. Et une conscience historique, c'est incroyable, parce qu'actuellement, les mass-médias, je suis désolé, c'est n'importe quoi. On dirait que vraiment, c'est de la propagande continuelle. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus de recul. Regardez avec cette histoire de... Comment s'appelle ce monsieur qu'on a attrapé en pensant que c'était lui qui a tué sa famille. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on nous raconte des histoires qui ne sont pas justes par rapport au Proche-Orient. Comme on ne raconte pas des histoires justes par rapport à ce qui se passe en Belgique. Donc comment s'en sortir ? Je crois qu'il faut revenir à ce que je disais, au devoir de courage et le courage d'avoir un devoir et le défendre. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut faire des films, il faut écrire, il faut continuer à aller le plus loin possible avec sa conscience pour qu'on ouvre encore des horizons. Alors pour le moment, l'horizon le plus clair pour nous, C'est une position éthique forte par rapport à Israël. C'est-à-dire, ils doivent arrêter la colonisation. Hein? Et puis, il faut qu'ils remettent en question leur récit. Le récit, il est plein de mensonges. C'est que de mensonges, de la propagande. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, par exemple, bon, on est tous d'accord qu'il faut sortir du nationalisme. Hein? C'est-à-dire l'identité, et c'est simplement, c'est retrouver un équilibre. Mais ce n'est pas une négation de l'autre. Hein? Eux, voilà, ils font une négation de l'autre. Nous, on n'existe pas pour eux. Mais nous existons, parce que moi je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur de ce que je suis, etc. Donc, pour moi, 3000 ans, ben, je resterai 3000 ans, voilà, mes enfants, mes petits-enfants, etc. C'est parce que ce n'est pas un problème de haine, c'est un problème de justesse et de justice.
Cette litanie sur les beaux judaïsmes, etc., etc., je la partage avec vous. Je simplement dis qu'aujourd'hui, les premiers ennemis de judaïsme, c'est le sionisme. Et les premiers ennemis de juifs, c'est l'État d'Israël. Ça, à la limite, c'est notre problème. Sauf que quand Michel vous dit, à tout le monde, pas seulement à vous, il parle des démunis, j'ai entendu ce qu'il dit. Il parle de opprimés. Et au moment qu'on nie la possibilité de l'opprimé, d'être opprimé, on est dans la négation de soi qu'on est juif. Et c'est ça qui me choque chez vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois défendre une certaine négation et vouloir reconnaissance. S'il y a négation de la souffrance palestinienne, il y a négation de la souffrance juif. S'il y a une négation de la purification ethnique de la Palestine en 48, c'est-à-dire de la Nakba, il y a droit à la négation de la Shoah. Et ça, c'est quelque chose que je me battrai. C'est pour ça que je défends la mémoire de la Nakba, parce que je défends aussi la mémoire des génocides juifs et des génocides des Arméniens, etc. Et les moindres mal, je le répète, n'est jamais de côté des biens et toujours de côté des mal. Donc, il y a assez de propagandistes pour parler de tomates cerises, et de Waze, et des magnifiques soleils de Tel Aviv, et de ces pays qui est extrême low, extrêmement gay-friendly, etc. Pour ça, il y a les propagandistes. Nous, on est en face. On n'est pas de ces côtés-là. Ça, c'est notre rôle comme cinéaste. Notre rôle n'est pas justement renforcer la propagande. Ça, c'est la partie la plus facile. On aurait été beaucoup plus riche si on aurait été de ce côté-là.
Laggiù nel Medio Oriente, come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini. Ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele. La tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina, accanto a quella del Vietnam.
Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani.
Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta.
Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria. Abbiamo alzato rosso il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah. Abbiamo alzato la bandiera
partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam.
Vous avez entendu dans la première partie de notre émission Civis Pacem les cinéastes Elia Sivan et Michel Kieffi répondre à des questions de spectatrices et de spectateurs sur leur film célèbre Route 180, film qui aborde l'utilisation politique de la mémoire en Israël. Elia Sivan a fait une quinzaine de documentaires, il a participé à de nombreux programmes de télévision et il a même écrit des livres dont je vais vous donner quelques titres. L'un s'appelle « Éloge de la désobéissance » qu'il a écrit avec Ronnie Broman. Un autre s'appelle « Un état commun entre le Jourdain et la mer » qu'il a écrit avec Eric Hazan qui a été publié aux éditions de La Fabrique en 2012. Il a écrit un autre livre qui s'appelle « Un boycott légitime pour un BDS », c'est-à-dire un boycott universitaire et culturel d'Israël, qu'il a écrit avec Armel Laborie et qui a été publié aussi par les éditions La Fabrique en 2016. Alors, Elia Sivan collabore aussi à la revue Union juive française pour la paix, dont nous avons déjà parlé dans notre émission, mais naturellement, il est beaucoup critiqué pour ses opinions politiques. Quand, en 2001, il publie un article dans Le Monde intitulé « La dangereuse confusion des Juifs de France », ceci lui vaut de vives critiques par des personnalités publiques françaises comme Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut écrit « Eliane Sivan est l'un des acteurs les plus en vue de l'antisémitisme juif contemporain, un phénomène difficile et effrayant ». Eliane Sivan, bien sûr, porte plainte contre Alain Finkielkraut pour diffamation. Et lors de son procès, c'est Bernard-Henri Lévy qui vient témoigner en faveur d'Alain Finkielkraut. Mais les critiques de personnalités juives françaises ne s'arrêtent pas là. Au printemps 2003, alors qu'il rentre d'Israël où il a participé à un séminaire de cinéastes arabes et israéliens, Eliane Sivan affirme avoir reçu une lettre contenant une balle de 22 mm, accompagnée de ces mots « La prochaine n'arrivera pas par la poste ». Le cinéaste met bien sûr en cause les personnalités qui l'ont critiqué, les accusant d'entretenir un climat de haine à l'égard de ceux qui critiquent la politique israélienne. Alors cette fois, bien sûr, il a déposé plainte pour menace. Nous allons écouter Eliane Sivan quand il a été invité à la Cinémathèque de Toulouse au Festival Ciné Palestine en avril 2023 pour présenter ses films qui remettent en question la politique de l'État d'Israël. Car, comme il le dit, Eliane Sivan s'est toujours intéressé à l'histoire des Juifs dans le monde.
Ça m'intéresse, ça m'a intrigué, c'était ma passion et c'était d'une certaine manière, je dirais, la relation aussi de mes parents à ces mondes dans lesquels ils sont arrivés en tant que immigrants / colons. Mes parents sont arrivés de l'Amérique latine en Israël. Et quand je dis... Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas la langue locale. D'ailleurs, moi, ma première langue, c'est l'espagnol. Je refusais au départ de parler à l'extérieur une autre langue que la langue qu'on parlait à la maison. Donc l'hébreu, qui est la langue d'Israël. Et une des choses qui était, et ça je pense que c'est une relation de toute société des colons, c'était il y avait beaucoup d'images à la maison, au sens que mon père prenait beaucoup de photos, beaucoup de diapos, montrait beaucoup de diapos sur le mur, mais j'ai grandi dans l'ombre d'une image. Tout ce que je raconte maintenant, évidemment, c'est a posteriori, je ne le savais pas à l'époque, et donc une grande partie de ce que je dis, c'est que je suis en train de construire une histoire a posteriori. Comme toute histoire a posteriori, la relation avec la vérité, les mythes et tout, on en parlera. J'ai grandi à l'ombre d'une image, ou de deux images. Une image, c'est une photo que mon père a prise dans une exposition qu'il a vue avant de venir en Israël. Et c'était une photo qu'il a prise, les tableaux de Picasso, le Guernica, qui a été agrandi, très grand, et qui était toujours dans la salle à manger. C'est vrai que c'est bizarre grandir dans la salle à manger avec le Guernica. Et j'ai été et je pèse mes mots et j'utilise les mots exacts, qui est j'étais fasciné par cette photo. C'est la photo de oralité, de les photos de d'un tableau. L'autre, c'était un petit tableau, une petite croquis qui était Don Quichotte, aussi de Picasso, qui a été acheté apparemment dans les mêmes expos. Donc il y a les Don Quichotte d'un côté, il y a les Guernica de l'autre. Et je pense que si j'essaye de penser à ces deux tableaux, qui sont deux photos en réalité, parce que c'est des reproductions, mon travail s'articule autour de ça. Des Don Quichotte d'un côté et de ces terrifiants tableaux qui m'a fasciné. Et quand je dis fascination, et la fascination traverse un petit peu mon travail, c'est à la fois l'attirance énorme et à la fois les dégoûts, qui est un rapport que j'essaye d'affirmer dans la relation générale à l'image. Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a sur l'écran, donc j'imagine que la majorité des gens vont dire bah, il y a des écriteaux, et il y a ici les murs de séparation, et là-bas il y a des oranges. Mais la vérité, c'est que sur l'écran, il n'y a strictement rien, sauf des points de lumière. Il n'y a rien sur l'écran. Tout est dans votre tête. On donne nos têtes de spectateurs à cause de cette machine qui traduit les points d'image, etc. Mais en même temps, c'est extrêmement palpable. Il y a quand même des oranges. Eh bien, il n'y a rien en même temps. J'ai grandi dans un endroit, qui se trouve que l'idéologie dominante coïncide avec l'invention du cinéma. Le sionisme, c'est fin du 19e siècle, et l'invention du cinéma, c'est fin du 19e siècle. La distance est vraiment une distance de à peine 8 ans. Et je vais un petit peu vendre la mèche pour le film qui vient après, et toute la question pour moi de cet lieu que certains vont appeler la Terre Sainte et l'autre vont appeler la Terre d'Israël et vont appeler Palestine et après va devenir l'État d'Israël est beaucoup une question de projection. Et ce n'est pas par hasard que les premiers photographes, après l'invention de la photographie qui coïncide avec les débats avec l'Église, au sein de l'Église autour de Darwin, vont se poser la question de la réalité de la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer les photographes de l'Église, les photographes anglicans, pour aller prouver que la Palestine, c'est bien la terre de la Bible. Qu'est-ce qu'ils font les frères Lumière après avoir fait les quelques images qu'on connaît, la sortie de l'usine, l'entrée de la gare de la Ciotat, etc.? Ils vont envoyer leur opérateurs, ce qu'on appelait les opérateurs de lumière, ou en Terre Sainte, pour finir. C'est-à-dire que, finalement, j'ai grandi dans un endroit qu'on connaît, et c'est, on peut commencer avec les frères Lumière et terminer avec les médias, avec l'information. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un endroit qui est universellement familier à des gens que à travers le fait qu'il n'y a rien sur un écran. Et pourtant, il devient familier. C'est-à-dire, si sur les écrans de télé, il n'y a rien, sauf de plein de lumière, eh bien, tout le monde a une projection mentale, d'une certaine manière, d'Israël-Palestine. Et donc, à partir de ce jeu de notions, qui est d'un côté cette idée de fascination, et la fascination de quoi? C'est à la fois un crime, et c'est à la fois en relation au pouvoir, et les mêmes choses, les Don Quichotte. Il se trouve qu'à un moment, à un âge très jeune, puisque je m'ennuie à l'école, et en plus, j'ai ce problème que j'ai grandi entre deux langues, et puisqu'en Israël, on apprend déjà à l'école primaire l'anglais, j'avais trois langues ensemble, je me suis trouvé dans une situation dans laquelle j'avais une grande, je dirais, un taboulet dans la tête des langues, dans lesquelles je n'avais pas un moyen d'expression oral, vous voyez, c'est plus le problème maintenant, n'est-ce pas? Ni un moyen d'expression orale, ni à l'écrit, et donc très jeune, jeune collégien, j'ai reçu un appareil photo de mon père et j'ai commencé à faire de la photo. J'ai commencé à faire de la photo, d'abord la photo, et à un moment, à l'âge de 20 ans, je passe de la photo à la photo mouvement au cinéma, aussi simple que ça peut être. Mais c'est la photo qui va m'amener à faire du cinéma parce que, puisque je quitte l'école, je fais pas les bacs, je vais faire la photo industrielle et la photo de mode. Et dans une séance de photo de mode, je vais me retrouver dans un décor formidable que je découvre dans mon ignorance israélienne. Je découvre que cet endroit est un camp de réfugiés abandonnés. Et ça va être le thème de mon premier film. Ce camp, qui d'ailleurs s'appelle Aqaba Jaber, qu'on a entendu il y a quelques jours qu'il y a eu une incursion de l'armée israélienne. Donc, je fais un petit peu une mosaïque d'idées pour essayer de répondre à votre question, et je n'échappe pas à la question, est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est un outil? Mais en même temps, en étant quelqu'un qui vient de la photo dans laquelle enfant, je parle de 10, 11 ans, la nuit, dans les labos photo argentiques, je me rends compte que la photo est une fabrication. C'est-à-dire, ce n'est pas une empreinte du réel, c'est une fabrication. Donc si c'est fabrication, en plus, à l'époque, on travaillait avec les mains, donc on faisait comme ça pour révéler l'image. Et comment on dit faire avec les mains? Ça s'appelle manipulation. Étymologiquement, le mot manipulation, c'est faire avec les mains. Eh bien, l'image est le résultat d'une manipulation. Est-ce que ça, c'est pas de la politique? Puisque qu'est-ce que la politique si ce n'est pas la manipulation? Certes, Foucault dit la politique, c'est faire avec les mots, mais c'est faire avec l'action, c'est ça. Donc moi, je ne distingue pas du tout la question de faire de l'image et faire de la politique. D'autant plus que la présence de l'image sur un écran et ma présence est une occupation d'un espace public. Et l'occupation d'un espace public, pour certains, est un privilège. On le voit tous les jours à la télévision. Mon interprétation, que c'est aussi un devoir. Donc, maintenant, il faut répondre à la question, est-ce que faire de l'image, c'est un outil pour exprimer de la politique ou... Ce que moi je préfère dire, faire de l'image, c'est faire de la politique. Faire de l'image, c'est faire de la politique. C'est-à-dire mettre sur un écran quelque chose qui donne l'illusion de l'existence réelle. Il y a des gens qui pleurent même quand un acteur qui gagne 2 millions de dollars meurt sur un écran. D'ailleurs, on pleure plus facilement quand des acteurs de Hollywood meurent sur un écran que devant des morts réelles qu'on voit aux informations. Les vrais paradoxes de cinéma. Donc, pour moi, certes, faire de l'image n'est pas un moyen de faire de la politique, un moyen d'expression, c'est faire de la politique. C'est-à-dire, ce que je appelle la politique de l'image. Et c'est ça que je fais. À la fois, je fais de l'image, mais j'essaye, et ça, c'est les films que vous allez voir après, mais on peut en parler des films que certains ont vu avant, c'est aussi, en permanence, mettre l'image en doute, c'est-à-dire défasciner le spectateur de la relation à l'image. C'est pour ça que je fais partie de ces cinéastes, et là je vous invite, qui n'ont pas des secrets de fabrication de tout. C'est-à-dire, comment j'ai fait ça, pourquoi tu as fait ça, etc. Je suis prêt à répondre à tout, et je trouve une position plutôt hautaine de vouloir se dire, oui, mais ça c'est l'art, ça c'est les matières, ça c'est l'inspiration, ça c'est mon cœur, ça c'est ma tante. Tout ça, c'est de posture d'artiste, mais ce n'est pas le rôle d'artiste qui est répondre à cette position qui est j'occupe l'espace, donc j'ai fait de la politique. Pour moi, Israël-Palestine, Palestine-Israël, qui pour moi c'est un territoire, il n'y a pas Israël et Palestine, c'est Palestine-Israël, ce territoire-là, pour moi, c'est mon laboratoire. C'est mon laboratoire, mais les choses qu'on en parle ou que je traite dans ces laboratoires-là, j'essaie de les penser en termes universaux, si ça existe, universel. C'est-à-dire, je pense que la question de colonialisme, la question de pouvoir, de domination et tout, c'est des questions qui vont au-delà de ces colonialismes-là. Donc, c'est un laboratoire. Maintenant, vous avez commencé votre question en disant il y a une question de cadre. Il y a une question de cadre, et les cadres montrent, il est déjà la représentation de la thématique lui-même. Moi, je dis merci. D'abord, je suis toujours flatté quand il y a un spectateur qui me suit, c'est-à-dire comme je me fais comprendre, et donc qui voit ça. Et je dirais plus que ça, la question même de pouvoir politique est une question de cadre. La question de dans quel cadre nous vivons, quel est le cadre du pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est une histoire de cadre. Ça, c'est simplement pour continuer la question d'avant. Faire de la politique, c'est proposer un cadre d'une certaine manière. Alors, comment ce film a été fait? Les films que vous venez de voir, pour ceux qui l'ont vu, en réalité, est une fiction. Alors, ça veut dire quoi, c'est une fiction? Tous les personnages que vous avez vus existent. Personne de ces personnages n'a pas été filmé en même temps que l'autre. Il y a 18 interviews séparées qui ont été faites dans des lieux complètement distincts. C'est-à-dire que la conversation potentielle, cette idée de créer un agora dans lequel les gens discutent entre eux, ce n'est qu'une action possible par le cinéma. Et en cela, c'est une fiction. C'est-à-dire, c'est du montage calculé déjà au moment du tournage. C'est-à-dire, l'interview, il ne se fait pas comme ça. L'interview, la caméra est là. Donc, si la caméra est là, et moi je parle comme ça, je sais déjà que si je mets une caméra là, je peux avoir ce qu'on appelle au cinéma un champ contre champ. Vous voyez, le champ contre champ, c'est quand deux personnes sont assises à table en train de discuter, et elle le dit, t'es un salaud, lui il le dit, non, c'est pas moi qui a commencé, c'est toi qui a commencé, on voit une fois elle, une fois lui, une fois elle, une fois elle. Ça, c'est le champ contre champ. Et ben là, le champ contre champ, il est déplié, en réalité. Il y a un champ d'un côté de l'autre, mais c'est 18 interviews séparées, dans lesquelles les gens me répondent à moi, à mes questions. Sauf que moi, j'ai la mémoire de tous les interviews. Et donc, je pose presque les mêmes questions à toutes les personnes. Et parfois, je prends une idée d'une personne d'un autre interview et je le propose à la personne comme un argument. Ce qui fait que ça va me permettre en montage de créer. Et en plus, pendant que je pose les questions, puisque je suis bavard, comme vous venez de marquer, donc mes questions sont très longues. Et donc, les personnes sont en train de m'écouter. Ils sont en train de sourire parfois. Ils sont en train de ça. Et c'est ça que j'utilise pour écouter l'autre. Et donc, ces films, c'est l'exemple même que la frontière documentaire et fiction, c'est une frontière minime. Mais ici, puisque le film s'appelle État commun, conversation potentielle, la notion de potentiel, c'est les potentiels aussi qui donnent le cinéma à créer une réalité qui n'existe pas encore. Et voilà comment le film a été fait. C'est-à-dire, le film pense la possibilité de mettre tous ces gens ensemble et discuter. La la la.
Écoutez la balade de la désescalade. Il n'est pas trop tard pour commencer. Plus toutes ces salades qui retardent la venue du jour de clarté. La 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 la. À la croisade de la désescalade, avis à tous ceux qui veulent monter pour sortir de la panade, des frites et des grillades, un peu moins chaque jour et c'est gagné. La la la. La 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 Tous les jours c'est la guerre des nerfs, tous les jours sur cette bonne vieille terre, sur les prairies de la Normandie, les vaches mâchent et les vaches chient, et dans les bistrots du vieux Paris, on en fait autant, avec esprit dans les yeux où le rouge et le jaune se mêlent en commande. Les tout dernières nouvelles, la douce sérénade de la désescalade contre la fanfaronnade de l'absurdité, la désescalade. Pourquoi est-ce qu'on tarde? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? La la la.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu Graham Allwright qui nous chantait la ballade de la désescalade. Alors la désescalade, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons dans la guerre qu'Israël mène actuellement à Gaza et qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts civiles et qui continue chaque jour à augmenter le risque de génocide selon les termes du Tribunal international. Le cinéaste israélien Elia Sivan, invité à la Cinémathèque de Toulouse en avril 2023, répondait à une question sur le conflit déjà ancien entre l'État d'Israël et le peuple palestinien.
Ensuite, la question que je me suis posée pendant le film, c'est pour que les choses changent, pour que ce pays sorte de l'apartheid, le combat il est où ? Et le combat, il est bien sûr là-bas, mais est-ce qu'il n'est pas aussi ici, dans les pays occidentaux ? C'est-à-dire faire en sorte que nos dirigeants, qui ont beaucoup d'empathie aujourd'hui pour, à juste titre, pour les Ukrainiens, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas en avoir un petit peu pour les opprimer ? Ça fait quand même quelques décennies qu'on a des gens qui sont opprimés en Palestine-Israël. Il aura fallu quelques jours quand la guerre a commencé, il y a un an. Et j'aimerais avoir votre avis.
La question de la Palestine, je dis exprès parce que c'est comme ça que ça a été défini déjà au début du XXe siècle par les pouvoirs coloniaux, la question de la Palestine. Puis les conflits israélo-palestiniens, ou plutôt les conflits sionistes palestinien n'est pas une question moyenne-orientale ni une question de là-bas. C'est une question d'ici. Le problème est né ici. Quand je dis ici, pas à Toulouse, hein. Ici en Europe. C'est une question européenne. La question de dessin d'une carte est une question, cette idée même de dessiner des cartes qui partagent des ressources naturelles et des appartenances ethniques, etc., est une question purement européenne. C'est la question européenne. Quand on fabrique un gâteau immangeable, on ne revendique pas qu'on est les pâtissiers. Donc, moi, je veux bien donner un crédit au pouvoir européen qu'il revendique pas que ces gâteaux de merde, c'est pas eux qui l'ont cuisiné. Donc, ça, on peut comprendre. Je me mêle pas parce que c'est pas moi. Sauf que puisque ce conflit n'est pas un conflit de là-bas, Paris couché, c'est un conflit d'ici. Et chaque pays européen, avec son propre histoire. Parler de la colonisation de Palestine en France, c'est parler de l'Algérie. Si on ne veut pas parler de l'Algérie en France, on ne parle pas de la Palestine. Parler de la question de la Palestine en Allemagne, c'est parler de la solution finale au problème des rescapés des camps. Je pèse mes mots. J'ai pas dit la solution finale au problème juif. C'est la solution au problème. Enfin, finalement, et si on parle de l'Angleterre, on pourra trouver la spécificité. Parce que parler de la partition de la Palestine, c'est parler de la partition et de massacres et de génocides de l'Inde et de Pakistan et de l'Irlande. Et comme ça, je pourrais passer pays par pays européen et expliquer pourquoi chaque pays, il a une relation spécifique, cette histoire. L'histoire de la constitution d'un État juif en Palestine, c'est-à-dire sur une terre indigène qui n'appartient qu'aux indigènes, et permettre à un peuple étranger, même s'il a une relation profonde de spirituelle, religieuse, à ces territoires, c'est, je dirais, une façon humanitaire de résoudre le problème juif européen. Je dirais, finalement, dans le fond palpable d'antisémitisme européen, si on ne veut pas génocider les juifs, on le dit, mais allez-y, on vous donne un État. Et c'est comme ça qu'on a créé les plus grands ghettos juifs du monde, en dehors du monde européen. Le problème, c'est que d'un côté, c'est un ghetto juif dans lequel il y a des juifs, et à l'intérieur du ghetto, il y a l'indigène. Oh, comme disait un personnage très drôle, palestinien de Nazareth, disait, les juifs, pendant des années, voilà, ils ont essayé de s'établir dans un endroit où on est venu, on les a sapés ce qu'ils ont fait. À un moment, ils se sont dit, on veut construire un coffre-fort. Je vous rappelle, c'est un palestinien d'Israël. Donc ils disent, ils ont construit un coffre-fort, sauf que le problème, c'est que nous, on est à l'intérieur de nos coffres-forts. Et donc, quand vous posez la question, pourquoi ils ne s'intéressent pas à ces conflits, et pourquoi ils s'intéressent et tout, moi, je vais vous poser la question, mais pourquoi on ne s'intéresse pas aux problèmes européens? Si on s'intéresserait aux vrais problèmes européens, on s'intéresserait à la Palestine. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question, c'est-à-dire, c'est quoi ce conflit? C'est-à-dire, la question, elle est, on est en France, posons-la la question. Si la République est universelle, alors pourquoi il n'y aurait pas une République dans laquelle il y a une communauté qui est la communauté des citoyens en Palestine, ou en Palestine-Israël, dans laquelle il y a que des citoyens? Parce que justement, cette universalité, elle vaut que pour ceux qui l'ont inventé. Et pour les autres, c'est la séparation, etc. Donc voilà la réponse. La réponse, c'est que d'abord, il faut considérer qu'il s'agit d'un problème européen. Maintenant, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre? Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui est un pays criminel et tout, est un pays dans lequel tout le monde tolère, hein, et son voisin iranien, qui n'est pas mieux, mais n'est pas pire, on ne tolère pas. Question. Pourquoi l'Égypte, la dictature égyptienne, on tolère et tout? Mais comme ça, on pourra aller à haut, à droite, etc. Pourquoi? Parce que une des choses de la notion de pouvoir, puisque le pouvoir ne peut pas englober tout, le pouvoir divise. Et deuxièmement, il faut se rappeler une chose, l'éthique est quelque chose d'humain. Les États ne sont pas éthiques. L'État, ça n'existe pas un État qui se couche la nuit et se dit, oh putain, mais vraiment je suis en train de faire des conneries. L'État n'a pas d'état d'âme. Ce n'est pas une entité autre qu'une entité de gestion. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? La première chose, c'est changer, mais ce n'est pas personnel, hein, changer le mode d'articulation de la question. Combien de temps ces pays accepteraient qu'il y ait la France combien de temps ce pays accepterait de vivre en cachant les cadavres sous-jacents et existants qui est son rapport colonial. Est-ce que ce pays va continuer, en France, je parle, va continuer à y croire que la décolonisation est une question territoriale ou la décolonisation est une question mentale? Combien de temps? Et la réponse, hein, elle est chez Marion Maréchal. Voilà. Est-ce qu'on veut Marion Maréchal, hein, ou est-ce qu'il y a une autre option? Voilà la question. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce que l'Europe veut retourner à son apogée fasciste? C'est ça la question qui se pose. Si la réponse est oui, bah continuons à agir au Moyen-Orient ou dans comme on agit. Mais si on veut que les citoyens démocrates et arabes de ces pays vont sentir, hein, que leurs sentiments, leur inspiration, leur désir, leur appartenance est respectée, bah il faut résoudre la question du Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est un épicentre qui peut tout faire exploser. Voilà comment poser la question pour moi, mais ça c'est ma façon de la poser. La peur est un ressort de politiciens, ce qu'on appelle les politiciens populistes. C'est-à-dire, on est né dans la peur, comme humain, on est né dans la peur. Avant, on était bien dans les ventres de notre mère et tout. À partir du moment qu'on est sorti, on est dans la peur. Et donc, on manipule la peur. Israël, il se trouve que mon deuxième film s'appelle « Izkor, les esclaves de la mémoire » et c'est sur cette thématique-là. C'est-à-dire, c'est l'éducation, comment on utilise la mémoire, soi-disant, et à partir de cette mémoire, on articule la peur. C'est-à-dire, Israël, nous, on a grandi dans l'idée que, grosso modo, à chaque moment, on est entouré des loups. Qui vont venir nous manger. Et donc la solution, c'est il faut être plus fort, il faut avoir plus de barbelés, il faut avoir murs plus grands, il faut avoir des chars plus grands, etc., etc. Sans tenir compte que plus les murs il est haut, plus les autres trouvent des solutions pour les passer. Plus on a des chars, plus eux ils vont trouver passer de la pierre à l'attentat suicide, etc. Donc en réalité la peur est quelque chose qu'à la fois il sude tout le monde. Je vais vous donner un exemple de cinéma. Vous voyez le western. Vous voyez cette carrosse qui est dans les déserts, dans lesquels il y a les curés, les banquiers, la pute, la veuve. Vous voyez, ils sont tous ensemble, tout, ils y vont vers le west et tout. Et ils n'ont rien en commun, ils se disputent, etc. Et tout d'un coup, arrivent les Indiens. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est des copains et tout, les curés avec la pute, les banquiers avec la veuve et tout, ils sont tous ensemble parce qu'il y a un ennemi commun. C'est ça le ressort de la peur. C'est ça le ressort de la peur. Et à la place de faire tout mon grand discours là, j'aurais pu citer Mahmoud Darwish, le poète palestinien, qu'en 1988, dans une rencontre qui a eu lieu à Tolède, dans laquelle il y a eu tous les mouvements de différentes mouvances de juifs orientaux progressistes, y compris Shlomo Elbaz d'ailleurs, qui a fondé l'Orient pour la paix. Donc des juifs issus des pays arabes, beaucoup d'Israéliens, qui sont venus dans une rencontre avec l'OLP 1988 à Tolède. Mahmoud Darwish monte sur scène et dit la phrase suivante, qui est peut-être la réponse même à votre question. Il dit « Nous, Palestiniens, nous savons que vous avez peur. Nous, Palestiniens, nous reconnaissons même votre peur. Nous, Palestiniens, on reconnaît même les sources de votre peur. Et bien, justement, c'est votre peur qui nous fait peur. »
Un poème de Mahmoud Darwish, extrait de son recueil publié aux Actes Sud, « Comme des fleurs d'amandier » ou plus loin. Voici « Pense aux autres ». Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonymie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi que ne suis-je une bougie dans le noir.
Un pays qui possède 200 têtes d'armes nucléaires et qui se positionne comme une vulnérabilité absolue, en psychiatrie, on appelle ça de la perversion ou de la schizophrénie, ça dépend, je ne suis pas psychiatre, mais c'est entre les deux là. Mais cette schizophrénie-là, c'est la schizophrénie israélienne. C'est-à-dire, j'ai une scène que vous allez voir demain pour ceux qui auront la patience de regarder Route 181, c'est un soldat ultra, méga, super armé qui s'approche de la caméra. Il voit bien que la caméra tourne son arme avec un objectif d'ennui et machin. Il a un grand arme et tout. Et il explique jusqu'à quel point il est victime. Alors, soit que ce n'est pas une question politique, c'est une question psychiatrique, soit que cette peur est ce qui a été construit et distillé. Parce que finalement, vous dites, les Israéliens ne savent pas que Peres a dit, et vous le croyez honnête, qu'on ne sait pas faire la paix. Moi, Peres et honnêteté, c'est deux choses qui sont parallèles. Vous savez, les parallèles, ça ne se croise jamais. Moi, j'aurais posé la question à Peres autrement, et ça, c'est la question que je pose souvent aux Israéliens. Mais quel est l'intérêt d'Israël de faire la paix? Pourquoi? Quoi? Elle va vendre plus des armes qu'elle ne vend pas aujourd'hui aux Émiratis et aux Saoudiens et aux Algériens et aux Marocains? Quoi? Elle va faire plus d'exports de high-tech? Pourquoi Israël aura intérêt de faire la paix? Aucun. Et c'est ça le problème. C'est un pays qu'il s'est constitué son état d'exception. C'est un état, avec E majuscule, d'exception. Son exception et sa spécificité, c'est parce qu'il est en guerre en permanence. Si Israël, demain, elle est la paix, tout le monde s'en foutra complètement. Les seuls, et c'est ça, alors la vraie peur, c'est pas la peur de génocide, ça. Les vraies peurs des Israéliens, c'est la paix. Et c'est ça que voulait dire Mahmoud Darwish, c'est votre peur qui nous fait peur. Parce que vous avez peur de la paix. Parce que vous n'avez aucun intérêt à la paix. C'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui croient qu'il faut forcer Israël à faire la paix. Parce que ce n'est pas son intérêt.
Le 20 mars 2024, presque 6 mois après l'attaque du 7 octobre 2023, Elias Sylvain est interrogé par son ami Franck Barra. Alors Franck Barra est un activiste français, auteur et producteur de films, qui a été aussi coordinateur du tribunal Russell sur la Palestine de 2008 à 2014. Elias Sylvain lui parle de son dernier voyage, un voyage récent, en Israël.
C'est la première fois que je suis parti en Israël avec la peur au ventre. Et même sur place, j'avais un sentiment dans lequel il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que je dis et à qui je dis? Et surtout un sentiment très très profond de le fait que l'Israélien, l'Israélien, ne pense plus ou ne pense qu'à travers la propagande et les clichés. C'est-à-dire, c'est que il n'y a pas une possibilité d'arriver à une réelle empathie à l'égard de l'environnement. Et je pense que cet état de déni, il est en réalité symbolisé par le festival Nova, qui a eu lieu dans la nuit de 6 au 7 octobre, dans lequel, voilà, il y avait une jeunesse israélienne qui était là dans un sentiment de paix, dans un sentiment de toute-puissance, dans un sentiment de normalité, comme dit ma femme, Armel, un pique-nique sur un volcan. Mais même après le 7 octobre, moi j'ai passé plus de 3 semaines sur place en 2 temps, il y a ce sentiment encore d'un pique-nique sur un volcan. Les cafés à Tel Aviv sont pleins, les restaurants sont pleins. Oui, certes, il y a des grands panneaux, des drapeaux, ensemble on va gagner, on vaincra ensemble, etc. Mais le sentiment le plus profond, c'est une société qui est dans un état de déni d'un côté et de l'autre, qui est en train de rentrer dans un état dans lequel elle n'arrive plus à gérer ses contradictions internes.
Ce que tu me disais par rapport à un pique-nique sur un volcan, ça me rappelle la dernière fois, moi que j'y suis retourné, j'étais à Naplouse et en repartant, j'ai dû passer une nuit à Tel Aviv pour partir le lendemain de l'aéroport de Ben Gurion. Et ça a été difficile, mais je suis allé à la plage. Ça a été difficile parce que je me rappelle que mes amis de Naplouse et de Jénine me disaient « Tu vois, regarde, la mer, on la voit là-bas, mais nous, on peut pas la toucher. » Donc être sur la plage, c'était très étrange, je me sentais un peu coupable. Enfin, j'espère qu'ils ne me voient pas d'où ils sont. J'étais sur la plage à Tel Aviv, donc plein de gens, d'Israéliens. Et à un moment, il y a des 3, 4, 5 hélicoptères, les énormes hélicoptères de guerre là, qui sont passés, direction sud, donc direction Gaza. Et les gens sur la plage se sont mis à applaudir. Et là aussi, et ça fait 10 ans, je me suis dit, putain, cette société... elle est barjot, en fait.
Oui.
Et en fait, ce que tu disais, tu as beaucoup travaillé sur la question du totalitarisme et aussi de la banalité du mal avec Hannah Arendt et le procès Eichmann. Moi, je voudrais que tu en ailles encore plus loin là, dans cette analyse que tu as faite de la société israélienne. Alors, la banalité du mal, je pense qu'elle est aussi là en Europe. T'as vu, il y a encore un jeune qui s'est fait tuer par la police à Paris il y a une semaine. Il y a un déni total. Il y a le racisme envers les Aya Nakamura. Il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, Amira Chebli, qui est une autrice tunisienne et qui faisait partie et qui a été impliquée dans la révolution tunisienne de 2011, nous disait, elle vit à Paris depuis quelques années, que Paris, en ce moment, elle a ressenti que c'est Tunis 2009. Elle dit, j'ai l'impression que ça va amener à quelque chose de très violent. Mais pour revenir à la société israélienne, du coup, les gens se posent la question des fois et me disent, mais comment une société, un pays, un État qui s'est construit quand même en partie sur l'Holocauste, en arrive à faire un pique-nique en regardant des bombes tomber sur un autre peuple?
Et d'une certaine manière, l'éducation israélienne, cette éducation qui insiste sur l'aspect que nous sommes la victime, nous étions toujours la victime, et nous sommes héritiers de la position de victime. Rappelons que victime est associée à l'idée d'innocence. Tout ce que nous faisons, ou tout ce qui fait l'Israélien, est un acte, en réalité, d'une victime innocente qui se défend. Et à partir de là, la mémoire ne devient pas justement ce qui empêche commettre le crime, mais devient la permission à commettre le crime. C'est-à-dire, elle devient permissive. Et on l'a vu très bien dans les discours d'après le 7 octobre, qui était « puisque nous sommes les victimes, nous avons le droit de tout faire. Et nous sommes innocents jusqu'au bout. Tout ce que nous ferons est un acte, en réalité, d'innocence et d'autodéfense, y compris les processus génocidaires qui se déroulent aujourd'hui à Gaza. Ce n'est pas nous, disent les Israéliens, c'est le Hamas. C'est-à-dire, nous sommes dans les côtés de l'innocence. Et dans cette période dans laquelle nous voyons, dans laquelle Israël perd sur le plan international, en tous les cas les populations, peut-être pas les dirigeants, dans lesquels le 7 octobre a été profané, en réalité, par les autorités israéliennes, ma crainte profonde, c'est que les Israéliens vont rechercher à retrouver leur position de victime pour, justement, retrouver leur innocence. Si on parle aujourd'hui des Gaza, c'est parce que des Israéliens sont morts. Parce que des Palestiniens sont morts avant le 7 octobre. Et c'est ça qui a déclenché, et c'est ça qui est extrêmement compliqué avec l'opération de 7 octobre, qu'on peut dire une chose, quoi qu'il en pense, qu'elle a remis la question palestinienne au cœur de l'inquiétude, au moins, internationale. C'est-à-dire qu'il fallait cet acte d'extrême violence pour ramener et sortir de la banalisation du mal. La crainte aujourd'hui, ma deuxième crainte, c'est que ce qui est en train de se passer au quotidien à Gaza aussi est en train d'être banalisé. On n'est plus dans les grands titres, on est dans les seconds. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un processus permanent dans lequel, qui est le processus israélien, à chaque fois, un seuil de violence plus élevé, ce qui fait que les prochaines étapes partent de ces seuils de violence nouveaux. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir qu'il y a une jeunesse, juif en l'occurrence, en Europe aujourd'hui, qui se voit comme antisioniste et anticolonial en même temps. Parce que c'est ça, l'antisionisme. L'antisionisme est une forme d'anticolonialisme.
Nous arrivons au terme de notre émission dans laquelle vous avez entendu le cinéaste israélien Eyal Sivan nous parler de ses films et notamment du film Route 181. Alors, ce film Route 181, je vous conseille de ne pas le manquer si vous apprenez qu'il est diffusé quelque part près de chez vous. Avec ce film, d'ailleurs, vous comprendrez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien. Eyal Sivan n'est pas beaucoup interrogé actuellement dans les grands médias français, et l'on comprend pourquoi, en écoutant son point de vue sur le sionisme et l'état de la société en Israël pendant la guerre à Gaza. Nous tenons donc à le remercier ainsi que les spectatrices et les spectateurs qui ont posé des questions dans les nombreux débats qui ont été organisés après la projection de ces films à Toulouse ou ailleurs. Merci aussi à Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions sur Radio Libertaire. Et nous terminons cette émission en musique avec le trio Joubran et Mahmoud Darwish. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايل وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض
أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
Jean-François se lamente, mais bouée.
Jean-François.
Pauvre Jean-François de Nantes.
Oui, oui, oui.
Gabier de la fringante, mais bouée.
À la voix de Goéland qui chante au musical, qui fait danser les gens. T'es comme un baratin qui cause en mi bémol. T'es comme une vieille putain qui monte qu'à l'entresol. T'es comme un arc-en-ciel sur l'harmonie du soir. T'es comme un maître d'hôtel qui joue en blanc et noir. T'es comme un soprano qu'aurait vendu Calas et chanterait comme un pot le premier.
Thank you.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et on commence une émission un peu spéciale avec José, une émission qui sera consacrée à un groupe avec lequel on vous gonfle depuis bientôt 200 émissions, sans trop forcément vous avoir expliqué de quoi il s'agissait. C'est un groupe qui se nomme, et je pense que nos trois fans au fond de la salle se reconnaîtront, ou du moins le crieront en cœur, c'est No Means No. Donc le meilleur groupe du monde, évidemment, un groupe canadien. Et là, on vient de vous diffuser Joy, donc un petit album, un petit morceau qui sort d'un EP. Et voilà. Alors, on vous a jamais trop expliqué qui était ou ce qu'était No Means No. Donc, c'est un groupe qui a été fondé par deux frères, John Wright et Rob Wright, qui sont deux Canadiens issus de Victoria, donc une petite ville sur la côte ouest, pas très très loin de Vancouver. Donc ils sont anglophones évidemment, et ils ont formé le groupe après donc plusieurs disons il y a eu quelques tâtonnements. Ils étaient relativement jeunes à l'époque. Rob est le plus vieux, il est né en 1954.
70
ans. John lui est plus jeune, il est né en 62 seulement, c'est ça?
Il a 8 ans de moins.
Il a 8 ans de moins, donc ouais, 54-62. Et normalement, à la louche, ça colle à peu près. Et les deux, en fait, s'emmerdaient à Victoria et jouaient de la musique. Et Rob, le plus vieux, est tombé en quelque sorte sous l'emprise du punk rock. Et il est allé, il y avait un concert de DOA. DOA, c'est Dead on Arrival. C'est un autre groupe célèbre de cette époque-là. Canadien, on n'aura pas le temps d'en parler. On a dû les voir en concert aussi, il y a longtemps. Si, je crois. Ah non, je confonds avec MDC. Ouais, je confonds avec un autre groupe avec des initiales. Et donc, à partir de là, en quelque sorte, ça les a lancés. Et donc, les deux frères ont commencé à faire de la musique tous les deux. Avec John Wright donc à la batterie et Rob Wright à la basse. Et donc ça c'était en 82. Ils sortent un tout petit album où je sais même pas s'ils le sortent d'ailleurs, qui s'appelle Mama. Et ensuite je crois qu'on avait prévu plus ou moins de s'arrêter là à ce moment-là. Ah non, il faut qu'on parle du bouquin. On va présenter le bouquin. Donc l'idée c'était de vous présenter un livre qui est consacré à ce groupe et qui raconte tout ça de façon très très détaillée. C'est un livre qui s'intitule No Means No. Donc voilà, non c'est non, c'est un slogan féministe. Non c'est non. C'est quand une femme ne veut pas, elle ne veut pas. Elle a le droit de dire non. Point. Et le titre donc ensuite c'est From Obscurity to Oblivion. Donc de l'obscurité à l'oubli, je pense, ou à la disparition. Et c'est un bouquin de Jason Lamb et coécrit avec Paul Prescott, qui a été publié très très récemment chez PM. Très bonne maison d'édition américaine. Alors bon, le livre sera sans doute pas traduit, il faut le commander là-bas, mais bon, c'est un bouquin très très chouette et qui est composé de nombreux bouts d'interviews. Il y a très très longtemps de ça, on avait chroniqué un livre ici qui s'intitulait Please Kill Me, qui était composé de la même façon, où on interviewait différentes personnes qui ont vécu les événements pour avoir des témoignages croisés avec les éclairages des uns et des autres. Et donc dans ce livre, c'est une véritable foire aux célébrités minuscules du hardcore américain des années 80-90, puisque vous avez tout un tas d'interventions de gens qui sont des stars pour nous et qui sont souvent très très oubliés de manière globale, comme Jello Biafra, Alice Donut, un groupe, Victims Family, un autre groupe, Neurosis, un autre groupe, Mike Watt, un bassiste, Mr. Bungle, bon, là, on peut faire du Babes in Toyland, on peut faire du name dropping un peu à l'infini, parce que Nomizno est un groupe qui, malgré son manque de célébrité globale, a eu en fait une espèce d'influence assez forte sur tout un tas d'autres groupes à l'époque. C'était une espèce de. C'était des musiciens pour musiciens, parce qu'ils ont souvent fait des choses relativement techniques, relativement complexe, dans un monde où on préférait très très souvent faire trois accords et très rapide et puis partir en gueulant. Donc voilà un petit peu la présentation qu'on va vous faire ce soir, donc du bouquin No Means No From Obscurity to Oblivion de Jason Lamb. Si vous voulez les références, on pourra vous les donner sur le site de José Gurdulu, Archive.